Chapitre 10. Mariage. Comment faire bouillir une grenouille. Tournée des retrouvailles. Lisa, ça devrait t'intéresser. J'ai beau avoir parlé plein de fois au téléphone avec Bree au cours des 2 années qui suivirent, je ne l'ai pas revue avant le 19 juin 2011, date où dans une église de Long Island, elle est devenue Brianna Donlin Hughes. La plupart de nos appels concernaient Charles Jacobs et ses inquiétantes guérisons. Nous avions identifié une demi-douzaine d'autres cas associés à de probables effets secondaires, mais à mesure que le temps passait, nos conversations tournaient de plus en plus autour de son boulot à New York et de George Hughes, qu'elle avait rencontré à une soirée et avec qui elle n'avait pas tardé à emménager. C'était un avocat d'affaires haut placé, tout juste 30 ans, afro-américain. J'étais sûr que la mère de Bree était satisfaite sur les 3 tableaux, ou du moins aussi satisfaite que peut l'être la mère célibataire d'une fille unique. Pendant ce temps-là, le site de Pasteur Danny avait été fermé et le flot d'échanges Internet à son sujet s'était réduit à un mince filet. On supposait qu'il était ou bien mort ou bien dans une institution privée quelque part, probablement sous un nom d'emprunt et atteint de la maladie d'Alzheimer. Fin 2010, je n'avais pu glaner que 2 indices supplémentaires, tous deux aussi révélateurs que peu éclairants. Al Stampe avait sorti un CD de gospel intitulé « Thank You, Jesus », avec l'idole de Hugh Yates, Mavis Staples parmi les artistes invités. Et les Latchez étaient de nouveau proposés à la location à toute personne physique et morale solvable. Charles Daniel Jacobs avait disparu des radars. Hugh Yates affréta un jet privé Gulfstream pour aller au mariage et y embarqua toute l'équipe de Wolfjaw. Mocky McDonald, en chemise motif cachemire et manche à volant, pantalon tube et bottes en daim piquées aux Beatles et foulard psychédélique, représenta admirablement les années 60 lors de la cérémonie. La mère de la mariée n'était pas loin d'être renversante en robe vintage Anne Lowe achetée en friperie, et lorsque les vœux furent échangés, elle mouilla abondamment de larmes son corsage généreux. Le marié aurait pu être sorti tout droit d'un roman de Nora Roberts, grand, beau et ténébreux. Lui et moi échangeâmes une conversation amicale au cours de la réception avant que la fête ne prenne l'inévitable tournant du bavardage éméché aux danses bourrées. Je n'eus pas l'impression que Bree lui avait raconté que j'étais la vieille bagnole au chrome rouillé sur laquelle elle s'était entraînée, même si j'étais sûr qu'elle le ferait un jour, au lit et vraisemblablement après une séance de sexe particulièrement satisfaisante. Ça m'allait, parce que je ne serais pas là pour voir l'inévitable roulement d'yeux masculin. Notre clique de Netherlands rentra dans le Colorado avec American Airlines. Le cadeau de Hugh, jeune marié, était en effet la mise à disposition du jet Gulfstream qui les emmènerait passer leur lune de miel sur une plage confidentielle de Hawaï. Lorsqu'il en fit l'annonce au moment des toasts, Bree clapit de joie, sauta partout comme une gamine de 10 ans et serra Hugh contre son cœur. Je suis sûr que Charles Jacobs était le cadet de ses soucis à cet instant, et c'était légitime. Quant à moi, il n'avait jamais vraiment quitté mes pensées. Alors qu'il se faisait tard, j'ai vu Mocky aller chuchoter quelque chose à l'oreille du leader du groupe, une formation rock-blues tout à fait correcte, avec à son actif un solide chanteur et une palanquée de bons vieux titres. Le gars hocha la tête et demanda au micro si ça me dirait de venir jouer un morceau de guitare ou deux avec eux. J'étais tenté, mais mes anges gardiens ont eu le dessus et j'ai décliné. Peut-être qu'on n'est jamais trop vieux pour le rock'n'roll, mais la dextérité se perd avec les années et les chances de se ridiculiser en public deviennent réelles. Je ne me considérais pas exactement comme retraité, mais je n'avais pas joué en public depuis plus d'un an et n'avais participé qu'à 3 ou 4 sessions d'enregistrement, toutes des cas d'extrême urgence. Je n'avais brillé dans aucune. Lors d'une réécoute, j'avais surpris la grimace du batteur comme s'il avait mordu dans un fruit aigre. Il m'avait vu le regarder et avait prétendu que la basse s'était désaccordée. Tu parles. Ce n'était pas vrai, et nous le savions tous les deux. S'il est ridicule pour un type de 50 balais d'avoir des secrets d'alcôve avec une fille assez jeune pour être la sienne, il est tout aussi ridicule pour lui d'aller jouer d'une strat en tapant du pied sur Dirty Water. Pourtant, j'ai regardé ces mecs-là taper leur bœuf avec un brin de regret et beaucoup de nostalgie. Quelqu'un m'a pris la main, et en me retournant, j'ai vu que c'était Georgia Donlin. Ça te manque quand même, hein, Jamie? C'est vrai. Mais le manque cède la place au respect, j'ai répondu. C'est pour ça que tu me vois assis là. Ces mecs sont bons. Et toi, tu l'es plus? Je me suis surpris à repenser au jour où, entrant dans la chambre de mon frère Connie, j'avais entendu sa Gibson acoustique me chuchoter à l'oreille, me dire que je pourrais jouer Cherry Cherry. Jamie? Elle a claqué des doigts devant mes yeux. Reviens sur terre, Jamie! Je suis encore assez bon pour m'amuser, ai-je précisé, mais l'époque où je montais sur scène avec une guitare devant un public est révolue. Je me fourrais le doigt dans l'œil. J'ai eu 56 ans en 2012. Hugh et sa copine de longue date m'ont invité à dîner au resto. Sur le chemin du retour, je me suis rappelé une vieille histoire, vous la connaissez peut-être, sur comment s'y prendre pour faire bouillir une grenouille. Vous la mettez dans l'eau froide, puis vous montez le feu. Si vous le faites progressivement, la grenouille sera trop stupide pour s'en rendre compte et sauter. J'ignore si c'est vrai ou pas, mais j'ai décidé que c'était une excellente métaphore pour la vieillesse. Quand j'étais ado, je considérais les plus de 50 ans avec pitié et embarras. Ils marchaient trop lentement, ils parlaient trop lentement, ils regardaient la télé plutôt que d'aller au cinéma ou à des concerts. Leur conception d'une super soirée, c'était un pot-au-feu avec les voisins et au lit après le journal télévisé de 23 heures. Mais comme la plupart des quinquas, sexas et septuagénaires en relativement bonne santé, ça ne m'a pas trop dérangé quand mon tour est arrivé. Parce que le cerveau ne vieillit pas, voyez-vous. Bien que ses idées sur le monde puissent se durcir et que la tendance à radoter sur le bon vieux temps augmente. Au moins, je suis passé à côté de ça, parce que la majeure partie de mon bon vieux temps à moi, je l'ai passé en drogué, monomaniaque et forcené. Je pense que pour la plupart des gens, les délires trompeurs de la vie commencent à s'atténuer après 50 ans. Les journées passent plus vite, les douleurs se multiplient et la démarche se ralentit. Mais il y a des compensations. Avec le calme vient une plus juste appréciation des choses, et dans mon cas, une détermination à être le mec le plus réglo possible dans le temps qui me restait à vivre. Ce qui voulait dire aller servir la soupe une fois par semaine dans un foyer de sans-abri de Boulder et m'impliquer dans la campagne de 3 ou 4 personnalités politiques défendant l'idée radicale que le Colorado n'était pas fait pour être bétonné. J'avais encore quelques rendez-vous galants. Je jouais encore au tennis 2 fois par semaine et faisais mes 10 kilomètres à vélo par jour, ce qui maintenait mon ventre plat et entretenait mon flux d'endorphines. Bien sûr, je voyais quelques rides supplémentaires se dessiner autour de mes lèvres et de mes yeux chaque fois que je me rasais. Mais dans l'ensemble, je me disais que j'avais toujours le même air. Ce qui, bien sûr, est la douce illusion de nos jeunes vieilles années. Il a fallu que je retourne à Harlow à l'été 2013 pour comprendre la vérité. Je n'étais qu'une autre grenouille dans la marmite. La bonne nouvelle, c'était que jusqu'à présent, la température était encore moyenne. La mauvaise, c'était qu'elle n'allait pas cesser de grimper. Les 3 âges réels de l'homme sont la jeunesse, la maturité et putain, comment j'ai fait pour devenir vieux si tôt. Le 19 juin 2013, 2 ans jour pour jour après le mariage de Bree et de George Hughes et 1 an après la naissance de leur premier enfant, rentrant chez moi après une session d'enregistrement qui avait brillé par sa médiocrité, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres une enveloppe joyeusement décorée de ballons. L'adresse de l'expéditeur m'était familière. RFD numéro 2, Methodist Road, Harlow, Maine. Je l'ai ouverte et mes yeux se sont posés sur une photo de famille de mon frère Terry portant la légende « On fait d'une pierre 2 coups, venez faire la fête avec nous ». J'ai marqué un temps d'arrêt avant de l'ouvrir, notant la chevelure blanche de Terry, le ventre de plus en plus proéminent d'Annabelle et les 3 jeunes adultes qui étaient leurs enfants. La petite fille qui, il y a peu de temps encore, courait en rigolant sous l'arroseur de la pelouse, avec rien d'autre qu'une petite culotte de schtroumpfette sur les fesses, était maintenant une jolie jeune femme avec un bébé dans les bras. Ma petite nièce, Caroline. L'un de mes 2 neveux, le maigrichon, ressemblait à Connie. L'autre, le costaud, ressemblait de façon surnaturelle à notre père, et un peu à moi, pauvre bougre. J'ai ouvert l'invitation. Samedi 31 août 2013. Venez nous aider à fêter 2 grands jours. 35e anniversaire de mariage de Terrence et Annabelle, premier anniversaire de Caroline. Horaire de midi à... Point d'interrogation. Lieu, d'abord chez nous, puis à la Grange Eureka. Bouffe, des tonnes. Orchestre, les Castle Rock All Stars. Bibine, bière et vin couleront à flot. En dessous, il y avait un mot manuscrit de mon frère. Même à près de 60 ans, Terry avait gardé son écriture de chat de l'école primaire, celle qui lui avait valu un jour d'être renvoyé à la maison avec un mot de la maîtresse disant « Terence doit améliorer sa calligraphie », fixée par un trombone à son bulletin de notes. « Hey Jamie, t'as intérêt à être de la fête, ok ? Aucune excuse ne sera acceptée vu que t'as 2 mois pour t'organiser. Si Connie peut venir de Hawaï, tu peux faire le voyage depuis le colo. Tu nous manques, petit frère. » J'ai fourré l'invitation dans le panier en osier derrière la porte de la cuisine. Je l'appelais le panier « un de ces jours » parce qu'il était plein de correspondances à laquelle je pensais vaguement répondre « un de ces jours ». Ce qui signifiait naturellement « jamais », comme vous le savez certainement. Je me suis dit que je n'avais aucune envie de revenir à Harlow. Et c'était peut-être vrai, mais l'attraction de la famille n'en demeure pas moins réelle. Springsteen a peut-être bien vu juste quand il a écrit dans une chanson qu'aucune voix n'est meilleure à entendre que la voix du sang. J'avais une femme de ménage à l'époque. Elle s'appelait Darlene et elle venait une fois par semaine passer l'aspirateur, faire la poussière et changer les draps, corvée que j'avais encore quelques scrupules à déléguer, ayant appris à m'en charger moi-même depuis l'enfance. C'était une petite vieille morose et je mettais un point d'honneur à m'absenter quand elle venait. L'un des jours de passage de Darlene, à mon retour à la maison, j'ai vu qu'elle avait repêché l'invitation du panier un de ses jours et l'avait posée en position verticale et ouverte sur la table de la cuisine. Jamais elle n'avait fait une chose pareille, et j'y ai vu un présage. Ce soir-là, je me suis assis devant mon ordinateur, j'ai poussé un soupir et envoyé à Terry un mail de 4 mots. « Je serai des vôtres ». Ce fut un super week-end de Labor Day. J'ai passé du bon temps, et je me suis sincèrement demandé comment j'avais pu imaginer décliner l'invitation ou ne pas y répondre, ce qui aurait à tous les coups définitivement rompu mes liens familiaux déjà bien effilochés. Il faisait chaud en Nouvelle-Angleterre et la descente sur l'aéroport de Portland le vendredi après-midi fut inhabituellement perturbée par des masses d'air instables. Le trajet en voiture jusqu'à Castle County fut lent, mais pas à cause de la circulation. Je ne pouvais m'empêcher de ralentir devant tous les vieux jalons, les fermes, les murs de pierre, le Brownie Store, désormais fermés et obscurs, et de m'émerveiller de les retrouver. C'était comme si mon enfance était encore là, à peine visible sous une bâche en plastique poussiéreuse et éraflée, et rendue semi-opaque par le passage du temps. Il était 6 heures du soir quand je suis arrivé à la maison familiale, à laquelle une extension avait été rajoutée, doublant quasiment sa surface d'origine. Il y avait une petite Mazda rouge dans l'allée qui, comme ma Ford Eclipse, trahissait sa voiture de location d'aéroport et un camion Martin Fuel Oil garé sur la pelouse. Le camion était festonné d'assez de rubans et de fleurs de papier crépon pour ressembler à un char de carnaval. Un grand panneau peint était appuyé contre la calandre. Score, Terry et Annabelle, 35. Caroline, 1. Tous gagnants. La fête est par là, n'hésitez pas. Je me suis garé, j'ai monté les marches et j'allais frapper quand j'ai pensé « Que diable, j'ai grandi ici !» Alors je suis entré. L'espace d'un instant, j'ai cru avoir fait un saut dans le temps et être revenu aux années où je pouvais encore décliner mon âge d'un seul chiffre. Ma famille était attablée dans la salle à manger, exactement comme elle l'avait été dans les années 60, à parler à tort et à travers, à rire et à se chamailler, à se passer les côtelettes de porc, la purée et un plat d'épis de maïs gardé au chaud sous un torchon humide, comme ma mère avait coutume de le faire. D'abord, je n'ai pas reconnu l'homme grisonnant à l'air distingué assis en bout de table, et je ne connaissais pas du tout l'Apollon aux cheveux bruns assis à côté de lui. Et puis, celui à l'allure de professeur émérite m'a aperçu et il s'est levé, le visage illuminé. Et j'ai réalisé que c'était mon frère, Cranny. « Jamie !» s'est-il exclamé, et il s'est précipité pour faire le tour de la table, manquant renverser Annabelle au passage. Il m'a attiré dans une étreinte masculine en couvrant mon visage de baisers. J'ai ri en lui tapant dans le dos. Puis Terry nous a rejoints, nous prenant tous les deux dans ses bras. Et les trois frères ont alors exécuté une espèce de danse balourde de bar mitzvah qui a ébranlé le plancher. J'ai vu que Granny pleurait et j'ai ressenti comme une petite envie de pleurer, moi aussi. « Arrêtez les gars !» a dit Terry tout en continuant à sauter avec nous. « On va atterrir dans la cave !» On a continué un moment à sauter sur place. Il me semblait que nous devions le faire. Et c'était bien comme ça. C'était bon. Carney m'a présenté l'Apollon, probablement plus jeune que lui de 20 ans, Comme son bon ami du département de botanique de l'université de Hawaï. J'ai échangé une poignée de main avec lui en me demandant s'ils avaient pris la peine de réserver deux chambres séparées à l'auberge de Castle Rock. De nos jours, sans doute pas. Je ne me rappelle pas quand j'ai réalisé pour la première fois que Connie était gay, mais il devait déjà être en doctorat et moi encore en train de jouer Land of Thousand Dances avec les Cumberlands à l'université du Maine. Je suis sûr que mes parents l'ont su beaucoup plus tôt. Ils n'en ont pas fait tout un plat, pas plus qu'aucun d'entre nous d'ailleurs. Les enfants apprennent bien plus par l'exemple silencieux que par des règles édictées, c'est du moins mon impression. Une fois seulement, j'ai entendu papa faire allusion à l'orientation sexuelle de son deuxième fils. C'était dans les années 80. Ça a dû faire forte impression sur moi parce que c'était mes années noires et que j'appelais à la maison aussi rarement que possible. Je tenais à ce que mon père sache que j'étais toujours en vie, mais j'avais toujours peur qu'il n'entende dans ma voix ma mort imminente, que j'avais pour ainsi dire acceptée. « Je prie pour Connie tous les soirs », m'avait-il dit lors de cet appel. Ce foutu sida, on dirait qu'il le laisse se répandre exprès. Connie y avait échappé, et aujourd'hui il pétait carrément la santé, même si on ne pouvait pas ne pas voir qu'il vieillissait, surtout assis à côté de son pote du département de botanique. J'eus un souvenir éclair de Connie et Ronnie Paquette, assis épaule contre épaule sur le canapé du salon, interprétant « The House of the Rising Sun », en essayant de chanter en harmonie. Exercice futile, s'il en fut jamais. Quelque chose de cette vision dut se refléter sur mon visage, car Connie sourit en s'essuyant les yeux. « Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas disputé pour savoir à qui c'était le tour de ramasser le linge, hein ?»« Ça oui, j'ai convenu. » Et j'ai repensé à la grenouille trop bête pour s'apercevoir que l'eau de son courbouillon est en train de se réchauffer. Dawn, la fille de Terry et Annabelle, nous a rejoints avec Caroline dans les bras. Les yeux du bébé avaient cette nuance particulière que ma mère appelait le bleu Morton. « Salut, oncle Jamie. Voici ta petite nièce. Elle aura un an demain. Et une nouvelle dent qui sort pour fêter ça. Elle est magnifique. Je peux la prendre ?» Dawn a souri timidement à l'étranger qu'elle avait vu pour la dernière fois alors qu'elle portait encore un appareil dentaire. « Tu peux essayer, mais en général, elle se met à hurler dès que c'est quelqu'un qu'elle connaît pas. » J'ai pris le bébé, prêt à le rendre à la seconde où les hurlements retentiraient. Mais il ne s'est rien passé. Caroline m'a examiné, m'a tendu la main et m'a tordu le nez. Puis elle a ri. Toute ma famille a poussé des vivas et applaudi. Le bébé a regardé autour d'elle, étonné, puis a posé sur moi un regard dont j'aurais juré que c'était celui de ma mère. Et elle a encore rigolé. La vraie fête, le lendemain, affichait la même distribution, mais avec un plus grand nombre de second rôles. J'en reconnus certains immédiatement. D'autres avaient un air vaguement familier, et je m'avisai que plusieurs étaient les enfants d'anciens employés de mon père, qui étaient aujourd'hui les employés de Terry, dont l'empire avait grandi. Outre le commerce de fuel, il possédait une chaîne d'épiceries présente sur tout le territoire de la Nouvelle-Angleterre, appelée les Morton's Fast Shops. Son écriture de chat n'avait pas entravé sa réussite. L'équipe d'un traiteur de Castle Rock s'activait dans le jardin autour de quatre grilles pour distribuer hamburgers et hot dogs qu'accompagnait un assortiment hallucinant de salades et desserts. La bière coulait à flots de fût métallique et le vin de tonnelets en bois. Pendant que j'avalais une bombe calorique chargée de bacon, l'un des vendeurs de Terry, sous joyeux et volubile, me raconta que mon frère possédait aussi le Splash City de Fryeburg et le circuit automobile de Littleton dans le New Hampshire. « Ce circuit rapporte pas un centime, me confia-t-il, mais tu connais Terry. Il a toujours adoré tous ses stock cars et ses voitures de course. » Je me suis souvenu de lui travaillant avec papa dans le garage, sur diverses incarnations de la fusée du macadam. Tous deux en t-shirt plein de cambouis et combinaisons pendouillant aux fesses, et j'ai réalisé soudain que mon petit provincial de frère était un homme aisé, peut-être même riche. Chaque fois que Dawn s'approchait avec Caroline, la petite fille me tendait les bras. Je me suis retrouvé à la trimballer à droite et à gauche tout l'après-midi, et elle a fini par s'endormir sur mon épaule. Voyant ça, son papa est venu me libérer de mon fardeau. « Je n'en reviens pas, » m'a-t-il dit, en la couchant sur une couverture à l'ombre du plus grand des arbres du jardin. « Elle est plutôt sauvage avec les gens d'habitude. »« J'en suis flatté, » j'ai répondu, et j'ai posé un baiser sur la joue du bébé endormi, rougie par la poussée dentaire. Beaucoup de conversations roulaient sur le bon vieux temps et les souvenirs d'antan, le genre de sujet fabuleusement intéressant pour ceux qui étaient là et prodigieusement barbant pour ceux qui n'y étaient pas. J'ai fait l'impasse sur le vin et la bière, et quand la fête s'est déplacée à quelques kilomètres de là, direction la Grange Eureka, j'ai fait partie des chauffeurs attitrés et je me suis retrouvé à batailler avec les vitesses du monstrueux pick-up King Cab appartenant à l'entreprise de carburant de mon frère. Ça faisait bien 30 ans que j'avais pas conduit une manuelle, et mes passagers éméchés, ils devaient être pas loin d'une douzaine en comptant les 7 ou 8 sur le plateau à l'arrière, hurlaient de rire chaque fois que je faisais sauter l'embrayage et que le camion faisait un bond en avant. C'est un miracle qu'aucun d'eux n'ait été éjecté. L'équipe du traiteur nous avait précédés et des tables étaient déjà installées tout autour d'une piste de danse dont je me souvenais bien. Je suis resté planté là à contempler l'étendue de parquet lustré jusqu'à ce que la main de Cranny vienne presser mon épaule. Ça fait remonter les souvenirs, petit frère. Je me suis rappelé la première fois que j'étais monté sur scène, mort de trouille et reniflant à plein nez l'odeur de sueur montant par vagues brûlantes de mes aisselles. Et plus tard, mon père et ma mère passant en valsant tandis que nous jouions « Who'll stop the rain ?»« Si tu savais », j'ai dit. « Je crois que je sais », m'a-t-il répondu en me serrant contre lui. Et tout contre mon oreille, il a de nouveau murmuré « Je crois que je sais ». Il y avait bien 70 personnes à la maison pour le repas de midi. À 7 heures du soir, il y en avait 2 fois plus à la Grange Eureka numéro 7, qui aurait supporté un peu d'air conditionné magique de Charlie Jacobs en soutien au ventilateur de plafond lymphatique. J'ai attrapé un dessert bien dans le style des spécialités de Harlow, une gelée au citron vert renfermant des petits morceaux de fruits au sirop, et je suis sorti le manger dehors. J'ai contourné le bâtiment tout en prenant de petites bouchées avec ma cuillère en plastique, et voilà qu'est apparu l'escalier de secours sous lequel j'avais embrassé Astrid Soderberg pour la première fois. Je me suis rappelé comment la fourrure de sa parka entourait l'ovale parfait de son visage. Je me suis rappelé le parfum de fraise de son rose à lèvres. « C'était bien ?» j'avais demandé. Elle m'avait répondu « Recommence et je te dirai. »« Hé, petit !» La voix avait retenti juste derrière moi, me faisant sursauter. « Ça te dit de jouer un peu de musique ce soir ?» Je ne l'ai pas reconnu tout de suite. L'adolescent longiligne et chevelu qui m'avait recruté pour jouer de la guitare rythmique avec les Chrome Roses était maintenant dégarni sur le dessus, grisonnant aux tempes et précédé d'un bide qui débordait de la ceinture de son pantalon. Je l'ai regardé fixement, ma petite coupe en papier où tremblotait la gelée à la main. « Norm ? Norm Irving ?» Il a souri assez largement pour que je voie briller des dents en or au fond de sa bouche. J'ai lâché mon dessert pour lui donner l'accolade. Il a ri et m'a étreint lui aussi. On s'est mutuellement dit qu'on avait bonne mine. On s'est mutuellement dit que ça faisait longtemps, trop longtemps. Et on a parlé du bon vieux temps, évidemment. Norm m'a dit qu'il avait mis Hattie Greer enceinte et qu'il l'avait épousée. Ça n'avait duré que quelques années et après une période de rancœur post-divorce, ils avaient décidé de mettre le passé de côté et de redevenir amis. Leur fille Denise approchait les 40 ans et était propriétaire de son propre salon de coiffure à Westbrook. Libérée de toute dette aussi. Elle doit plus rien à la banque. J'ai 2 fils de ma 2e femme, mais entre toi et moi, c'est toujours Dini, ma petite chérie. Hattie aussi a un fils de son 2e mari. Norm se rapprocha, et sur le ton de la confidence, le sourire sombre. Il entre et il sort de prison. Ce gosse vaut pas la poudre pour l'expédier en enfer. Et Kenny, et Paul, Kenny Laughlin, notre bassiste, avait aussi épousé sa chérie de l'époque des Chrome Roses, et ils étaient toujours mariés. Il est agent d'assurance à Lewiston. Il se débrouille bien. Il est là ce soir. Tu l'as pas vu ?
Non.
Même si je l'avais sûrement vu, sans le reconnaître, comme lui ne m'avait peut-être pas reconnu. Quant à Paul Bouchard, Norm a secoué tristement la tête. Il a dévissé en faisant de l'escalade dans Acadia State Park, en 1990 c'était. Il a survécu 2 jours à sa chute et il est mort. Ça vaut sans doute mieux. Il aurait eu tout le corps paralysé s'il avait vécu. Quadriplégique, comme on dit. L'espace d'un instant, j'ai imaginé notre ancien batteur, s'il s'en était sorti, couché dans un lit avec une machine pour l'aider à respirer et regardant Pasteur Danny à la télé. J'ai vite chassé cette pensée. « Et Astrid, tu sais où elle est ?»«
Quelque part sur la côte est. Castine, Rockland.
Il a secoué la tête. Je ne me souviens pas. Je sais qu'elle a laissé tomber l'université pour se marier et que ses parents étaient furax. Et sûrement encore plus furax quand elle a divorcé. Je crois qu'elle tient un restaurant, une de ces paillotes à homard sur la plage. Mais j'en mettrai pas ma main à couper. Vous étiez vraiment super amoureux, hein ? Ça oui, j'ai dit. Pour l'être, on l'était. Il a hoché la tête. Premiers amours, rien ne les vaut. Je suis pas sûr que je voudrais la revoir aujourd'hui, parce que cette bonne vieille soda burger, c'était de la dynamite à l'époque. De la nitroglycérine, pas vrai ? Oui, j'ai dit en repensant à la cabane en ruine près de Skytap et au paratonnerre métallique. Comment il devenait rouge ardent quand la foudre le frappait. Ouais, ça l'était. On n'a rien dit pendant un moment, puis il m'a tapé sur l'épaule. Bon, c'est pas tout ça. Tu viens taper le bœuf avec nous ? T'as plutôt intérêt à dire oui, parce que le groupe va être sacrément boiteux si tu dis non. T'es dans le groupe ? Les Castle Rocks All-Stars ? Kenny aussi ? Ben oui. On joue plus tellement, plus comme au bon vieux temps, mais là, je vois pas comment on aurait pu refuser. C'est mon frère Terry qui t'envoie me chercher ? Non, même s'il a pu imaginer que tu monterais sur scène avec nous pour deux, trois morceaux. Non, il voulait juste un groupe rescapé du passé, et Kenny et moi, on est les deux derniers dinosaures. Toujours en vie, toujours abonnés à cette vieille cambrousse, et qui jouons toujours. Notre guitariste rythmique est charpentier à Lisbon Falls. Il est tombé d'un toit mercredi dernier, et il s'est cassé les deux jambes. Ah, oh, la guigne, j'ai dit. Ouais. Et sa guigne, c'est ma veine. M'a fait Norm Irving. On est prêt à jouer en trio, et le trio, comme tu sais, ça craint. Trois Chrome Roses sur quatre, c'est pas mal, surtout quand on sait qu'on a donné notre dernier grand concert mythique au Pal Hop de Lewiston il y a plus de 35 ans. Alors ramène-toi, c'est la tournée des retrouvailles. J'ai pas de guitare, Norm. J'en ai trois dans le camion, il m'a dit. T'as qu'à choisir. Et souviens-toi, on commence par Hang On Sloopy. On est monté sur scène aux applaudissements enthousiastes d'un public chauffé par l'alcool. Kenny Laughlin, aussi mince qu'autrefois, mais le visage désormais agrémenté de plusieurs verrues disgracieuses, a levé les yeux de la sangle qu'il était en train d'ajuster sur sa Fender Precision Bass et m'a salué en me tapant le poing. Je n'étais pas nerveux comme je pouvais l'être la première fois que j'étais monté sur cette scène avec une guitare dans les mains, mais j'avais vraiment l'impression de vivre un rêve particulièrement vivant. Norm a ajusté son micro d'une main, comme il l'avait toujours fait, et s'est adressé au public pressé de guincher au rythme de bons vieux standards du rock. Il y a beau avoir écrit Castle Rock All Stars sur la grosse caisse, on a ce soir un invité de marque à la guitare rythmique, ce qui fait que pour deux petites heures, nous redevenons les Chrome Roses. Envoie le son, Jamie! Je me suis souvenu du baiser échangé avec Astrid sous l'escalier de secours. Je me suis souvenu du combi rouillé de Norm et de son père, Cicero, roulant un joint d'herbe dans du papier zigzag, vautré dans le canapé défoncé de son vieux mobile home, et me disant que si je voulais décrocher mon permis du premier coup, je ferais mieux de me couper les douilles. Je me suis souvenu des balles de jeunes qu'on animait au Rollodrome d'Auburn, et comment on s'arrêtait jamais de jouer quand les inévitables bagarres éclataient entre les lycéens d'Edward Little et ceux de Lisbon High, ou ceux de Lewiston High et de Saint-Dominique. On montait un peu plus le son, c'est tout. Je me suis souvenu de comment était la vie avant que je m'aperçoive que j'étais une grenouille dans une marmite. J'ai gueulé. Un, deux, à trois, on y va. Et c'était parti. En mi. Toutes ces conneries commencent en mi. Dans les années 70, on aurait pu jouer jusqu'au couvre-feu d'une heure du matin, mais on n'était plus dans les années 70, et à 23 heures, on dégoulinait de sueur et on était lessivé. C'était pas grave. Sur ordre de Terry, le vin et la bière avaient été discrètement retirés dès 22 heures et privés d'eau de feu, la foule se clairsemait à vitesse grand V. La plupart des irréductibles s'étaient rassis, heureux d'écouter, mais trop crevés pour danser. « T'es sacrement meilleur qu'avant, petit !» me dit Norm, tandis qu'on rangeait nos instruments. « Toi aussi ?» Ce qui était un mensonge aussi éhonté que « t'as l'air en super forme !» À 14 ans, j'aurais jamais cru qu'un jour viendrait où je serais meilleur guitariste que Norman Irving, mais ce jour-là était arrivé. Il m'adressa un sourire pour me signifier qu'il savait ce qu'il valait mieux taire. Kenny nous a rejoints et les trois membres survivants des Chrome Roses se sont fait un gros câlin qu'à l'époque on aurait qualifié de « truc de pédé ». Terry nous a rejoints, accompagné de Terry Jr., son fils aîné. Mon frère avait l'air fatigué, mais aussi suprêmement heureux. « Écoute, vieux, Connie et son pote ont ramené une équipe trop beurrée pour conduire jusqu'à Castle Rock. Tu voudrais pas en embarquer une autre, jusqu'à Harlow, dans le King Cab, si je te prête Terry Jr. comme copilote ?» J'ai dit que je le ferais avec plaisir, et après un dernier au revoir à Norm et Kenny, scellés par ces étranges poignées de main de poissons morts qui sont l'apanage des musiciens, j'ai rassemblé ma bande de picoleurs et décollé. Pendant un moment, mon neveu m'a donné des indications dont je n'avais pas besoin, même dans la nuit. Mais le temps que je débarque mes derniers passagers dans Stackpole Road, il s'est tu. Quand je l'ai regardé, j'ai vu qu'il dormait, appuyé contre la vitre. Je l'ai réveillé en arrivant à la maison familiale dans Methodist Road. Il m'a fait une bise sur la joue, ce qui m'a ému plus profondément qu'il ne pouvait le soupçonner, et il est rentré comme un somnambule dans la maison pour y dormir au moins jusqu'à midi le dimanche, comme ont coutume de faire les adolescents. Je me suis demandé s'il dormait dans mon ancienne chambre, avant de conclure sans doute que non, il devait avoir sa chambre dans l'extension. Le temps modifie toutes choses, et c'est peut-être aussi bien. J'ai suspendu les clés du King Cab aux porte-clés de l'entrée, et alors que je rejoignais ma voiture de location, j'ai aperçu des lumières dans la remise. Je me suis approché, j'ai lorgné par le carreau et Terry était là. Il avait troqué ses fringues de soirée contre une combinaison. Son nouveau joujou, une Chevrolet Chevelle SS de la fin des années 60 ou début 70, luisait sous les lampes baladeuses tel un joyau bleu. Il était en train de la lustrer aux Simonies. Il a levé les yeux à mon entrée. « Peux pas dormir, trop d'excitation. Je vais lustrer ce bébé un petit moment avant d'aller me coucher. » J'ai passé la main sur le capot. Elle est splendide. Maintenant, oui, t'aurais dû la voir quand je l'ai récupérée aux enchères à Portsmouth. C'était une épave aux yeux de la plupart des acheteurs, mais je me suis dit que je pouvais la remettre sur pied. La faire revivre. Je ne m'adressais pas à Terry en particulier. Il m'a lancé un coup d'œil pensif avant de hausser les épaules. On pourrait dire ça, oui. Et quand je l'aurai équipé d'un nouveau transistor, on y sera presque. Plus grand-chose à voir avec les vieilles fusées du macadam, hein ? J'ai ri. Tu te rappelles quand la première a valsé au Speedway ? Terry a levé les yeux au ciel. Premier tour, enfoiré de Dwayne Robichaud. Il avait dû avoir son permis par correspondance dans le catalogue Sears et Roebuck. Il est toujours dans le coin ? Non, mort depuis 10 ans. Au moins 10 ans. Tumeur au cerveau. Diagnostiqué trop tard, le pauvre bougre avait plus aucune chance. « Suppose que je sois un neurochirurgien, » m'avait dit Jacobs ce jour-là au Lachess. « Suppose que je te dise que tes chances de mourir sont de 25%. Est-ce que tu ne prendrais pas le risque ?»« Dur. » Il a acquiescé. « Tu te souviens de ce qu'on disait quand on était môme ? C'est quoi qui est dur ? C'est la vie. C'est quoi la vie ? C'est un magazine. Combien coûte ? 15 cents. » J'en ai que 10. Dur. C'est quoi ? Qui est dur ? C'est la vie. Et ça continue en boucle. Je me souviens. On trouvait ça marrant. J'ai hésité. Est-ce que tu penses souvent à Claire, Terry ? Il a jeté son chiffon à lustrer dans un seau et il est allé se laver les mains à l'évier. Autrefois, il n'y avait qu'un robinet d'eau froide, mais aujourd'hui, il y en avait deux. Il les a ouverts, s'est saisi d'un pain de savon Lava et a commencé à se savonner. En montant bien jusqu'au coude, comme papa nous l'avait enseigné. J'y pense tous les jours, nom de Dieu. Je pense aussi à Indy, mais moins souvent. C'était comme qui dirait l'ordre naturel des choses pour lui, même s'il aurait pu vivre un peu plus longtemps s'il avait été un peu moins accro au couteau et à la fourchette. Mais pour Claire, merde, non, c'était trop injuste. Tu comprends ? Oui. Il s'est appuyé au capot de la Chevelle, les yeux perdus dans le vague. Tu te souviens comme elle était belle ? Il a secoué lentement la tête. Notre sœur si belle. Et ce salopard. Cet animal lui a volé toutes les années qu'elle avait encore à vivre et il s'est ensuite débiné comme un lâche. Terry s'est passé une main sur le visage. On ne devrait pas parler de Claire, ça me bouleverse. Moi aussi, ça me bouleversait. Claire, juste assez âgée par rapport à moi pour que je la considère comme une espèce de maman de renfort. Claire. Notre sœur si belle, qui n'avait jamais fait de mal à personne. Nous avons traversé le jardin en écoutant les grillons chanter dans les hautes herbes. C'était toujours fin août, début septembre, qu'ils chantent le plus fort, comme s'ils savaient que l'été se termine. Terry s'arrêta au bas des marches, et je vis qu'il avait les yeux encore humides. Il avait passé une bonne, mais néanmoins longue et stressante journée. J'avais eu tort d'évoquer le souvenir de Claire pour la clôturer. « Reste passer la nuit, petit frère. On a un canapé-lit. »« Non, j'ai dit. J'ai promis à Cranny de prendre le petit déjeuner à l'auberge demain matin avec lui et son compagnon. » « Son compagnon, » répéta Terry en levant les yeux au ciel. « Enfin bon. »« Oh là, Terence, me sors pas un vieux couplet XXe siècle. De nos jours, il pourrait se marier dans une bonne douzaine d'États américains s'il le voulait, y compris le nôtre. »« Oh, ça ne me dérange pas. Qui se marie avec qui, mes compagnons, c'est pas ce qu'est ce gars-là, peu importe ce que Cranny peut en penser. Je sais reconnaître un gigolo quand j'en vois un. Bon Dieu, il a la moitié de son âge. » Ce qui m'a fait penser à Brian, qui avait moins de la moitié de mon âge. J'ai serré Terry dans mes bras et posé une petite bise sur sa joue. « On se voit demain. Je déjeune avec vous avant de repartir pour l'aéroport. »« Entendu. Et, Jamie, t'as assuré à la guitare ce soir. » Je l'ai remercié et me suis dirigé vers ma voiture. J'ouvrais la portière quand il m'a rappelé. Je me suis retourné. Tu te souviens du dernier dimanche en chair du révérend Jacobs, quand il a délivré ce qu'on a appelé ensuite le terrible sermon ? Oui, j'ai dit, je m'en souviens très bien. On était tous tellement choqués à l'époque qu'on a mis ça sur le compte du chagrin qu'il éprouvait pour la mort de sa femme et de son fils. Mais tu sais quoi ? Quand je pense à Claire, je me dis que j'aimerais le retrouver pour lui serrer la main. Les bras de Terry, musculeux et noueux comme ceux de notre père, était croisé sur le devant de sa combinaison. Parce que ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'il a été courageux de dire ce qu'il a dit. Ce que je pense aujourd'hui, c'est que chacun de ses mots était juste. Terry s'était peut-être enrichi, mais il était toujours aussi économe et le dimanche midi, on a mangé les restes. J'ai tenu Caroline sur mes genoux pendant presque tout le repas, la nourrissant de petits bouts de ci et de ça. Quand l'heure est venue pour moi de partir, et que je l'ai rendue à sa maman, la fillette a continué à tendre ses petits bras vers moi. « Non, ma puce, » je lui ai dit en baisant son front incroyablement doux. « Je dois m'en aller. » Son vocabulaire ne comptait qu'une douzaine de mots environ, dont l'un était désormais mon prénom. Mais j'avais lu quelque part que les bébés ont une compréhension bien supérieure, et Caroline comprenait très bien ce que je lui disais. Son petit visage s'est fripé, elle a encore tendu ses bras, et des larmes lui sont montées aux yeux qu'elle avait de la même nuance que ceux de ma mère et de ma défunte sœur. « Va-t'en vite, m'a dit Cranny, sinon tu vas devoir l'adopter. » Alors je suis parti. J'ai repris ma voiture de location, direction le Jetport de Portland, puis Denver International et Netherlands. Mais je n'ai pas arrêté de repenser à ses petits bras potelés tendus vers moi et à ses yeux bleus Morton gonflés de larmes. Elle avait à peine un an, mais elle avait voulu que je reste un peu plus. C'est comme ça qu'on sait qu'on est chez soi, je crois. Peu importe depuis combien de temps on est parti ou à quelle distance on a vécu. Chez soi, c'est là où ils veulent que vous restiez un peu plus. En mars 2014, une fois les skieurs repartis de Vail, Aspen, Steamboat Springs et de notre Eldora Mountain à nous, une alerte au blizzard monstre fut relayée par la météo. Notre version à nous du célèbre vortex polaire avait déjà laissé 1,20 m de neige sur Greeley. J'ai traîné à Wolf Jaw la majeure partie de la journée afin d'aider Hugh et Moki à barricader les studios et la grande maison. Je suis resté jusqu'à ce que le vent commence à forcir et les premiers flocons à descendre en voltigeant du ciel plombé. Puis Georgia est sortie, vêtue d'une veste de trappeur, coiffée de protège-oreilles et d'une casquette Wolf Jaw Ranch. Elle était remontée à bloc. « Renvoie les mecs chez eux !» gueula-t-elle à Hugh. « Sauf si tu veux qu'ils restent en rade quelque part au bord de la route jusqu'en juin. » « Genre expédition Donner, j'ai dit. Mais jamais je boufferai Moki. Il est trop coriace. »« Allez, filez, vous deux, » nous a dit Hugh. « Revérifiez juste les portes du studio en passant. » C'est ce qu'on a fait, sans oublier aussi la remise pour être sûr. J'ai même pris le temps de distribuer quelques tranches de pommes aux chevaux, même si Bartleby, mon préféré, était mort depuis 3 ans. Le temps que je dépose Moki à sa pension de famille, il neigeait de rue et le vent soufflait déjà à 50 km/h au moins. Le centre de Netherlands était désert, les feux se balançaient au carrefour et des congères commençaient à s'amonceler devant les rideaux de fer déjà baissés des magasins. « Rentre vite chez toi !» m'a gueulé Moki par-dessus le bruit du vent. Avec son bandana noué sur le bas du visage, Il ressemblait à un hors-la-loi vieillissant. J'ai fait ce qu'il m'a dit, le vent bousculant ma voiture tout le long du trajet, comme un sale petit dur dans la cour de récré. Il m'a encore rudoyé tandis que je remontais l'allée en serrant mon col sur mon visage rasé de trop près et pas préparé à la morsure de l'hiver dans le Colorado, quand il décide de passer aux choses sérieuses. Une fois dans le vestibule, j'ai dû repousser la porte d'entrée à deux mains pour la refermer. J'ai vérifié ma boîte aux lettres et aperçu une seule missive. Je l'ai récupérée et un coup d'œil m'a suffi pour savoir de qui elle provenait. L'écriture de Jacobs était devenue tremblante et grêle comme des pattes de mouche, mais elle restait reconnaissable. La seule surprise était l'adresse de réexpédition. Poste restante, Moulton, Maine. Pas ma ville de naissance, mais sa voisine. Trop voisine pour ne pas m'alarmer. Tapotant la paume de ma main avec l'enveloppe, j'ai failli obéir à ma première impulsion, la déchirer en morceaux, ouvrir la porte et laisser le vent éparpiller les fragments. Je m'imagine encore le faire, chaque jour, parfois même chaque heure, et je me demande ce qui aurait pu être changé si je l'avais fait. Au lieu de quoi, je l'ai retourné. Au verso de cette même main mal assurée, il y avait écrit « Lis ça, ça devrait t'intéresser ». Ça ne m'intéressait pas, mais j'ai quand même ouvert l'enveloppe. J'en ai sorti une simple feuille de papier pliée autour d'une enveloppe plus petite. Au recto de cette seconde enveloppe figurait cette injonction. « Lis ma lettre avant celle-ci ». Ce que j'ai fait. Que Dieu me pardonne, je l'ai fait. Le 4 mars 2014. Cher Jamie, je me suis procuré tes deux adresses, électronique et postale. J'ai mes méthodes, comme tu le sais. Mais je suis un vieil homme à présent, avec des habitudes de vieil homme, et je pense qu'il est important que certaines affaires personnelles soient conduites par lettre, et si possible, par lettre manuscrite. Comme tu le vois, il m'est encore possible de le faire, même si j'ignore pour combien de temps encore. J'ai subi un AVC mineur à l'automne 2012 et un autre un peu plus sérieux l'été dernier. J'espère que tu voudras bien excuser la piètre qualité de mon écriture. Une autre raison me pousse à prendre contact avec toi par lettre. Il est trop facile de supprimer des emails, un peu moins de détruire une lettre sur laquelle quelqu'un s'est escrimé au stylo à plume. Je vais rajouter un mot au dos de l'enveloppe afin d'augmenter mes chances que tu me lises. Si je ne reçois aucune réponse de ta part, je me verrai contraint de t'envoyer un émissaire, ce que je préfère éviter, vu que le temps presse. Un émissaire? Je n'aimais pas ça du tout. Lorsque nous nous sommes vus pour la dernière fois, je t'ai proposé de devenir mon assistant. Tu as refusé. Je te le redemande, et cette fois, je veux croire que tu vas accepter. Tu dois accepter. Mon travail étant actuellement dans sa phase finale, tout ce qu'il me reste à faire, c'est une ultime expérience. Je suis sûr qu'elle va réussir, mais je n'ose pas la réaliser seul. J'ai besoin d'aide, et tout aussi important, j'ai besoin d'un témoin. Crois-moi si je te dis que, pour toi aussi, cette expérience a un intérêt presque aussi grand que le mien. Tu penses que tu vas refuser, mais je te connais assez bien, mon vieil ami, et je crois qu'après avoir lu la lettre ci-jointe, tu changeras d'avis. Avec toute ma considération, Charles D. Jacobs. Le vent mugissait. Le bruit de la neige heurtant le panneau de la porte faisait penser à du sable fin. La route de Boulder serait bientôt fermée à la circulation, si elle ne l'était pas déjà. Je tenais la petite enveloppe en pensant « Il s'est passé quelque chose ». Je ne tenais pas à savoir quoi, mais j'avais le sentiment qu'il était trop tard pour reculer à présent. Je me suis assis sur une marche de l'escalier montant à mon appartement, et tandis qu'une bourrasque particulièrement sauvage secouait l'immeuble, j'ai ouvert la petite lettre jointe. L'écriture était aussi tremblante que celle de Jacobs et descendait en penchant vers la page, mais je l'ai reconnue tout de suite. Bien sûr que je l'ai reconnue. J'avais reçu des lettres d'amour, dont certaines assez torrides, écrites de cette même main. Mon estomac s'est liquéfié, et une seconde, j'ai cru que j'allais me trouver mal. J'ai baissé la tête, couvrant mes yeux de ma main libre et me pressant les tempes. Quand le malaise s'est dissipé, je l'ai presque regretté. J'ai lu la lettre. Le 5 février 2014. Cher pasteur Jacobs, vous êtes mon dernier espoir. Ça me paraît fou d'écrire une chose pareille, mais c'est la vérité. Je vous contacte sur les instances de mon amie Jenny Knowlton, qui est infirmière, et prétend n'avoir jamais cru aux guérisons miraculeuses, bien qu'elle croie en Dieu. Mais il y a quelques années, elle a assisté à l'une de vos assemblées de Revival à Providence, Rhode Island, et vous l'avez guérie de son arthrite dont elle souffrait tellement que c'est à peine si elle pouvait ouvrir et fermer les mains. Et elle était accro à l'OxyContin. Voici ce qu'elle m'a raconté. Je me suis dit que j'y allais pour écouter Al Stamper chanter, parce que j'avais tous ces vieux disques des Volites. Mais tout au fond de moi, je devais bien savoir pourquoi j'y étais, parce que, au moment où il a demandé à ceux qui voulaient être guéris de s'avancer, j'ai rejoint la file. Elle m'a dit que lorsque vous avez touché ses tempes avec vos anneaux, non seulement ses douleurs dans les mains et les bras ont disparu, mais aussi le besoin de prendre de l'oxy. J'ai trouvé ça encore plus difficile à croire que la guérison de l'arthrite, parce que je connais beaucoup de gens qui en prennent et je sais qu'il est très dur de décrocher. Cher pasteur Jacobs, j'ai un cancer du poumon. La radiothérapie m'a fait perdre tous mes cheveux et je n'ai pas arrêté de vomir pendant la chimio. J'ai perdu 30 kilos. Mais une fois terminés tous ces traitements infernaux, le cancer est toujours là. Mon médecin préconise maintenant l'ablation d'un poumon, mais mon amie Jenny m'a prise entre quatre yeux et m'a dit « Je vais pas y aller par quatre chemins, ma chérie. Mais quand ils font ça, c'est que c'est déjà trop tard et ils le savent, mais ils le font quand même parce que c'est la seule solution qu'il leur reste. » J'ai retourné la feuille de papier, j'avais la tête qui cognait. Pour la première fois depuis des années, j'ai regretté de ne pas être défoncé. Être défoncé m'aurait aidé à regarder la signature qui m'attendait au bas de la page sans avoir envie de hurler. Jenny me dit qu'elle s'est renseignée sur vos guérisons sur Internet et que beaucoup d'autres que la sienne paraissent vraies. Je sais que vous ne faites plus de tournées dans le pays. Vous êtes peut-être à la retraite ou malade, peut-être même décédé. Je prie pour que vous ne le soyez pas, tant dans votre intérêt que dans le mien. Même si vous êtes en vie et en bonne santé, vous ne lisez peut-être plus votre courrier. Donc, je sais que ma démarche ressemble à une bouteille à la mer, mais quelque chose, pas seulement Jenny, me pousse à essayer. Après tout, il arrive qu'une de ces bouteilles s'échoue sur le rivage et que quelqu'un lise le message qu'elle contient. J'ai refusé l'opération. Vous êtes vraiment mon dernier espoir. Je sais combien cet espoir est mince et probablement fou. Mais la Bible dit bien, avec la foi, tout devient possible. Je vais donc attendre que vous me répondiez, ou pas. Dans les deux cas, que Dieu vous bénisse et vous garde. Votre, dans l'espérance. Astrid Soderberg, 17 Morgan Pitch Road, Mount Desert Island, Maine, 04-660, 207-555-64-54. Astrid, Dieu Tout-Puissant, Astrid à nouveau, après tant d'années. J'ai fermé les yeux et je l'ai vue, debout, sous l'escalier de secours, son visage jeune et radieux, entouré par la capuche de sa parka. J'ai rouvert les yeux et lu le mot que Jacobs avait rajouté en dessous de son adresse. J'ai pu voir son dossier médical et ses derniers scanners. Tu peux me faire confiance là-dessus. Comme je te le disais dans ma lettre principale, j'ai mes méthodes. Les rayons et la chimio ont réduit la tumeur dans son poumon gauche, mais ne l'ont pas éradiquée, et de nouvelles taches sont apparues sur son poumon droit. Son état est très sérieux, mais je peux la sauver. Tu dois me faire confiance aussi là-dessus. Mais ces cancers-là ressemblent à des feux de broussailles. Ils se propagent vite. Elle a peu de temps devant elle. Et tu dois te décider tout de suite. Si elle a si peu de temps, me suis-je dit, pourquoi ne pas m'avoir téléphoné ou m'avoir au moins expédié ton marché diabolique par courrier express? Mais je savais pourquoi. Il voulait que le temps presse parce que ce n'était pas d'Astrid qu'il se souciait. Astrid était un pion sur son échiquier. Moi, en revanche, j'étais l'une de ses pièces maîtresses. Je ne savais absolument pas pourquoi, mais je savais que c'était le cas. La lettre tremblant dans ma main, j'ai lu les dernières lignes. Si tu acceptes d'être mon assistant pendant que je termine mon travail cet été, ton ancienne amie et peut-être ancienne amante sera sauvée, le cancer expulsé de son corps. Si tu refuses, je la laisserai mourir. Évidemment, cela peut te paraître cruel, même monstrueux. Mais si tu avais conscience de la portée formidable de mon travail, tu penserais différemment. Oui, même toi. Mes deux numéros, de fixe et de portable, figurent ci-dessous. J'ai le numéro de portable de Mademoiselle Soderberg, là, juste à côté de moi, pendant que j'écris ces lignes. Si tu m'appelles, pour me donner une réponse favorable, bien entendu, je l'appellerai. Le choix t'appartient, Jamie. Je suis resté 2 minutes de plus assis sur les marches, à respirer profondément, à forcer mon cœur à se calmer. Je n'arrêtais pas de penser à Astrid, à son bassin levé à la rencontre du mien, à mon sexe palpitant et aussi dur qu'une tige d'acier, à sa main caressant ma nuque tandis qu'elle me soufflait une bouffée de sa cigarette dans la bouche. Enfin, je me suis levé et je suis monté à mon appartement, les 2 lettres pendant mollement au bout de mes doigts. L'escalier n'était ni long ni raide, et j'étais en bonne forme grâce à tout le vélo que je faisais. Mais j'ai quand même dû m'arrêter 2 fois pour me reposer et reprendre mon souffle avant d'arriver en haut. Et ma main tremblait tellement que j'ai dû la tenir avec l'autre pour pouvoir introduire ma clé dans la serrure. La lumière du jour déclinait et mon appartement était rempli d'ombre, mais je n'ai pas pris la peine d'allumer la lumière. Ce que j'avais à faire, il valait mieux que je le fasse vite. J'ai décroché mon portable de ma ceinture. Je me suis laissé tomber sur le canapé et j'ai composé le numéro du portable de Jacobs. Il n'a sonné qu'une fois. « Allô, Jamie ?» m'a-t-il dit. « Espèce de salopard, j'ai dit. Espèce de putain de salopard. Content aussi de t'entendre. Quelle est ta décision ?» Combien savait-il sur nous ? Lui en avais-je jamais parlé ? Astrid l'avait-elle fait ? Sinon, qu'avait-il bien pu exhumer ? Je l'ignorais et peu importait. Je devinais au ton de sa voix que sa question était de pure forme. Je lui ai dit que je serais là aussi vite que possible. « Si tu veux venir, bien sûr. Je serais ravi de t'avoir, même si je n'aurais vraiment besoin de toi qu'à partir de juillet. Mais si tu préfères ne pas l'avoir, dans son état actuel, je veux dire. Je prends l'avion dès que le temps le permet. Si vous voulez faire votre tour de passe-passe avant que j'arrive, la soigner, la guérir, allez-y. » Mais vous ne la laisserez pas repartir de chez vous, où que vous soyez, avant que je l'aie vue, sous aucun prétexte. Tu ne me fais pas confiance, c'est ça ? Au ton de sa voix, on aurait dit que ça le chagrinait terriblement, que je n'y ai pas accordé beaucoup d'importance. Jacob s'était passé maître dans l'art de projeter les émotions. Pourquoi est-ce que je vous ferais confiance, Charlie ? Je vous ai vu à l'œuvre. Il a soupiré. Le vent a redoublé, secouant l'immeuble et gémissant le long des avant-toits. « Vous êtes où ? À Moton ?» j'ai demandé. Mais, comme celle de Jacobs, ma question était de pure forme. La vie est une roue et elle revient toujours à son point de départ.